la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire?
Ce lien très intéressant entre cet architecte, la littérature, le théâtre, le cinéma. C'est rare d'avoir un architecte français avec un œil aussi cosmopolite. Pourquoi ? Parce qu'en France, le pays est tellement beau, tellement grand, que les architectes n'ont pas besoin de regarder ailleurs. Ils trouvent tout chez eux. Les Cévennes, je pense, en raison même de son lien familial, très très fort avec la Belgique, a hérité de ce regard belge. Ici, le pays est trop petit, on ne peut pas regarder chez soi. Donc, a hérité ce regard cosmopolite, il voit partout et il s'intéresse à l'architecture finlandaise, l'architecture américaine, l'architecture italienne. Il regarde tout autour. Ça en fait un peu quelqu'un d'à part dans l'histoire de l'architecture française, voilà, cette espèce de pic de la Mirandole, de cet homme qui connaît un peu tout dans tous les domaines de l'art, qui va, avec toute cette culture, arriver alors à partir des années 1923-24, au fond à l'assimiler et à définir sa propre architecture, son propre style. Et à ce moment-là, il est parti sur la grande route.
Le vers en question. Au site Grand Ornu, jusqu'au 26 mai, design orienté vers la collection du Cirba, avec Marie Poc et les voix de Maurice Culot et Jeroen Pechtat.
Nous sommes entre 1925 et 1937, deux moments clés, notamment parce que se tiennent des expositions universelles, comme on disait à l'époque. Celle de 1925, passée à la postérité, parce que c'est le point de départ de l'art déco, hein, puisque c'est l'exposition des arts décoratifs. Robert Malès-Stevens va y jouer un rôle déterminant, parce qu'il a créé, avec un certain nombre de collègues, de confrères et d'amis, une espèce de syndicat qui réunit des architectes, des artistes et des décorateurs. Ce syndicat s'appelle l'UAM, l'Union des artistes modernes. Et l'idée de Malès-Stevens est en fait celle qu'on retrouve déjà dans la sécession viennoise et qu'on trouvera plus tard dans le Bauhaus, l'idée de l'art total, hein, le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'architecture, on fait également les décors, le mobilier, les fresques, les tableaux, donc on conçoit une œuvre d'art totale, raison pour laquelle Malès-Stevens va s'entourer d'artistes et de décorateurs qui vont intervenir dans la quasi-totalité de ces projets pendant de très très nombreuses années, et ils vont ensemble défendre ce projet d'art total, notamment dans le cadre de l'exposition des arts décoratifs de 1925, où ils créent un stand, où ils montrent leur production.
Toute cette salle est consacrée au partenariat qui lie le Cirva et la Villa Noailles. La Villa Noailles, c'est cette villa qui a été construite pour le couple de Noailles à Hyères, dans le sud de la France.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Bollegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechanski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélie.
Le monde invisible.
cette Villa Noailles.
Nous sommes en 1924, enfin un petit peu avant, et un couple de mécènes d'art, très connu dans le milieu parisien de l'époque, les Noailles, donc le vicomte Charles de Noailles et son épouse Marie-Laure, commandent à Robert Malestevens une petite maison d'hiver, comme ils appellent ça, sur la Côte d'Azur, ailleurs pour être précis, où ils ont reçu dans leur corbeille de mariage un très beau terrain. Voilà. Alors ils jettent leur dévolu sur Malestevens. Ils ont essayé Miss Van der Rohe qui a refusé, ils ont essayé Le Corbusier qui n'était pas disponible. Et donc voilà, ils sont arrivés chez Malestevens, qui va donc construire cette maison, qui sera la première maison achevée, son premier chef-d'œuvre. Et cette maison a joué un rôle majeur dans le mouvement moderne, parce que non seulement c'était une maison très moderne pour l'époque, avec tout le confort, il y avait des salles de bain dans toutes les chambres, c'est jamais vu en ce temps-là, et c'est aussi une maison qui va réunir toute l'avant-garde française de l'époque, et donc vont défiler là-bas tous les surréalistes, par exemple. Hein. Il y a d'étonnantes photos de Breton en conversation avec Louise Bunuel et Georges Auric, et tout le monde est en maillot de bain, parce que dans la Villa Noailles, il y a une piscine. C'est une piscine couverte, mais qui donne évidemment sur une terrasse. Et lorsqu'on ouvre la piscine, eh bien, on peut profiter à la fois du bain et de la terrasse, et tout le monde reçoit un très joli maillot rayé.
Ehrenpestadt.
C'est le haut lieu de l'avant-garde qui prend ses vacances, ou qui prend quelques repos en tous les cas, sur la Côte d'Azur, que les Noailles vont réunir dans ce lieu qui est devenu un peu un mythe pour l'époque moderne.
Et qui continue d'ailleurs, je crois.
Alors la Villa Noailles a été entièrement restaurée, elle a été abandonnée pendant de nombreuses années. Elle a été restaurée il y a longtemps de ça, elle est devenue un centre d'art contemporain et une maison-musée qu'on visite.
Et qu'est-ce qui fait que c'est une maison hors du commun, son luxe ?
Non, elle n'est pas du tout luxueuse. C'est une maison toute simple.
La Villa Noailles, donc construite par Malestevens, qui accueille chaque année la Design Parade. La Design Parade, c'est un concours pour les jeunes designers. Et chaque année, un des lauréats reçoit comme cadeau une résidence au Sirva. Et donc, toute cette salle ici est consacrée aux fruits de ces résidences des lauréats de la Design Parade. Alors, pour cette résidence, ils sont tous appelés à créer un vase. Alors, pourquoi un vase ? C'est parce que le couple de Noailles, donc Charles et Marie-Laure de Noailles, étaient des grands amateurs de fleurs. Vous savez, c'était un couple qui vivait dans les années 20, années 30, avec un faste absolument inouï. Ils accueillaient des artistes chez eux. La villa qui a été créée par Malestevens, c'est un petit bijou. Et donc, ces gens faisaient énormément attention à leur intérieur. Et c'était de grands amateurs de fleurs coupées. Et donc, ils s'entouraient de beaucoup de vases qui étaient faits à l'époque par des grands artistes ou des designers. Et donc, le but de cette résidence, dans l'esprit des Noailles, de recréer des vases.
Le verre en question. Au site Grand Ornu, jusqu'au 26 mai, design orienté vert, la collection du Sirva, avec Marie Poch et les voix de Maurice Culot et Ehrenpestadt. Au Musevert, à Sarpoterie, dans la Vénois, le verre en mouvement jusqu'au 8 septembre, avec Anne Van Lathom, Pascal de Grel et René Guiffret.
Un designer islandais, figurez-vous, Brynjar Sigurdarson, mais qui a fait ses études en Suisse, et donc qui a travaillé, lui, la pâte de verre. Alors la pâte de verre, c'est une technique qui est très ancienne. Hein. On trouve beaucoup d'objets en pâte de verre déjà à l'époque phénicienne, à l'époque égyptienne aussi. Et puis tout à coup, c'est tombé un peu en désuétude. Ça a été réhabilité au 18e et surtout au 19e, notamment avec les pâtes de verre de galets, dômes, etc. Et donc aujourd'hui, on travaille encore la pâte de verre qui, dans ce cas-ci, est moulée à froid. C'est-à-dire qu'on crée un moule en plâtre. On dispose la pâte de verre dedans. Alors cette pâte de verre, vous voyez cette couleur vert, on appelle ça un vert céladon, qui rappelle un petit peu le jade, la pierre de jade. C'est une couleur verte qui est due à l'oxyde de fer, qui à la cuisson donne cette espèce de couleur verte. Dans le moule en plâtre, Brignard a disposé donc cette pâte de verre qui se présente en forme de granules, hein, c'est une espèce de sable comme ça qu'on dispose. Donc d'abord un verre avec une plus grosse concentration de ce verre céladon, donc de cet oxyde de fer, et puis un verre de plus en plus clair. Et lui, sa petite recette, c'est qu'il a été mettre du bicarbonate de soude dedans.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Junicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Ça mousse, voilà, ça dégage beaucoup de choses, notamment de l'air. Donc ici, on est à 8 jours de cuisson. Le bicarbonate a travaillé et donc fait ses petites bulles.
Au site Grand Ornu, jusqu'au 26 mai, design orienté vert.
Alors Caroline Nibling, voilà de nouveau un magnifique projet pour David Marshall, donc il va devoir cultiver des plantes d'eau à racines pendant toute l'expo.
C'est pas luxueux, c'est le confort moderne. Pour l'époque, c'est un luxe, évidemment, d'avoir une salle de bain dans chaque chambre. Et moi, j'ai visité cette maison, j'y ai même logé, d'ailleurs, parce que je suis allé travailler quelques jours avec les commissaires de la Villa Noailles qui nous ont aidés à faire l'exposition. C'est spartiate. C'est très, très simple. Les matériaux ne sont pas luxueux du tout. Le mobilier est très, très simple également. Donc, c'est une maison de vacances toute simple, très fonctionnelle, mais qui est, pour l'époque, d'avant-garde, parce qu'elle est très moderne. Les formes sont simples, c'est un agencement de volume géométrique. On ne construisait pas comme ça dans les années 20, c'est les tout débuts, si vous voulez, du modernisme. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une œuvre qui, historiquement, si vous voulez, a joué un rôle important dans l'influence qu'a pu avoir par la suite l'architecture moderne et moderniste, puisque quand on parle de l'architecture moderne l'entre-deux-guerres, on parle plutôt du modernisme. Mais par ailleurs, elle a effectivement beaucoup impressionné ses contemporains parce qu'elle bénéficiait de tout l'équipement technique le plus à la pointe pour l'époque.
Alors, Julie Richaud, elle est suisse et c'est aussi quelqu'un à suivre. C'est une fille qui travaille avec beaucoup de rigueur, qui a été repérée par la galerie Créo et donc, à mon avis, qui est promise à un avenir assez brillant. Et est-ce que ces vases vous rappellent quelque chose, cet univers chromatique? Sotsas, absolument. Et quelqu'un que vous avez vu ici, il y a Pierre Charpin aussi.
Les liens entre Miles Stevens et la Belgique sont très nombreux, mais les liens entre les Noailles et la Belgique sont très nombreux. Il faut savoir que Marie-Laure de Noailles est née Bischofsheim, du nom de cette célèbre lignée de banquiers, de financiers belges originaires d'Allemagne, qui sont notamment à l'origine de la Banque nationale de Belgique. Et Charles de Noailles va développer, pour sa part, un intérêt pour l'architecture, ça on le sait, mais également pour les jardins, très prononcé. D'ailleurs, il va faire réaliser dans l'enceinte de la Villa Noailles un jardin très célèbre dans l'histoire du jardin moderne, qui est le jardin cubiste, qui est réalisé par un monsieur qui s'appelle Gevrekian et qui travaille d'ailleurs avec Miles Stevens, et qu'il découvre en visitant l'exposition des arts décoratifs de 1925, où il présente un jardin d'eau et de lumière qui l'impressionne beaucoup. Il faut savoir que les Noailles avaient déjà fait appel à deux frères spécialisés dans l'architecture des jardins très moderne pour l'époque, les frères Vera, qui avaient, eux, réalisé le jardin de leur hôtel particulier parisien qui se trouve Place des États-Unis, et qui est aujourd'hui, d'ailleurs, la fondation Baccarat. Et Charles de Noailles va poursuivre cet intérêt pour les jardins tout au long de sa vie. Lorsqu'il va quitter la Villa Noailles, il va aller s'installer un peu plus loin à Grasse, où il a une propriété, dont il va entièrement redessiner les jardins. Et pour ce faire, il va prendre conseil auprès d'un architecte de jardin belge, qui a lui aussi une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, et qui n'est autre que René Peucher, avec lequel il va entretenir d'ailleurs une correspondance. C'est assez amusant parce que une des lettres de Charles de Noailles à René Peucher commence par « cher confrère », comme si Charles de Noailles lui-même était un professionnel du jardin. Le lien s'est vraisemblablement fait via la sœur de Charles de Noailles, qui a épousé un de Ligne, de la famille des princes de Ligne. Donc il y a beaucoup de connexions, de relations tout à fait étonnantes entre Miles Stevens, les Noailles d'une part, et la Belgique d'autre part, jusque dans la réalisation des jardins.
Voilà un travail un petit peu plus classique, c'est Pernell Poyet. On pourrait dire que c'est une sorte d'alphabet de formes qui permet de faire différentes compositions. Elle, ce qui l'intéressait, ce n'était pas tellement la question de la forme, c'était plus la question des compositions de couleurs. Et donc chaque ensemble qu'elle a créé, ce sont des couleurs qu'elle a choisies vraiment dans l'idée de composer avec 1, 2, 3, 4 ou 5 différents tubes. Voilà pour Pernell.
Marie Poch.
Et puis ici, on retrouve quelqu'un qu'on a déjà vu au Grand Ornu, qui est aussi une personnalité très, très, très spéciale. Qui se souvient de Laura Couteau-Rosado? Christelle qui chante. Oui, oui. Bon, encore une designer qui ne fait rien comme tout le monde. Donc ici, c'est un vase à faire soi-même. Donc vous vous souvenez, Laura Couteau, elle est principalement intéressée par les liens entre la science, la technique, le design et l'art. Tout ça fait des objets qui sont des objets qui mettent souvent le visiteur ou l'utilisateur, qu'ils mettent à l'épreuve, qui demandent une activation de la part de l'utilisateur. Et ici, c'est le cas. Donc en fait, son vase, au départ, c'est le vase qui se présente, vous savez, comme des petites ampoules de médicaments avec une petite pipette au-dessus. Après, pour obtenir votre forme de vase, c'est vous qui allez devoir casser la pipette. Comment elle fait? On le voit là dans la vidéo. C'est un fil, un simple fil de fer avec une petite résistance. Elle le chauffe dans une des entailles qui est faite avec une roue. Vous voyez, il y a une petite entaille au niveau du col et puis il y en a plus bas. Donc vous choisissez la hauteur à laquelle vous voulez couper votre vase. Il faut donc entourer ça du fil. Bon, c'est une performance, hein. On n'est pas dans un vase de commerce, on va dire. Mm-hmm. Et donc, avec la résistance, on le chauffe et puis on le casse à ce niveau-là.
La Villa Noailles, Anne van Lathom, car nous parlons dans votre bureau, Musevert, la Sarpoterie. Et la Villa Noailles, d'après mes informations, se situe de l'autre côté de la France.
Complètement à l'opposé. Nous, on est au nord, à la frontière belge. La Villa Noailles, c'est à Hyères, dans le sud, près de la Méditerranée.
Donc ça aussi, souvent, au Sirva, on se retrouve plus dans la performance que dans l'objet fini. Mmh. Et donc, ça a été le cas avec Jerzy Seymour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce designer berlinois qui est un type absolument ingérable. Il a fait performance avec des danses, avec les verriers, enfin des choses dingues, mais il n'en est rien resté parce qu'ils ont tout cassé. Ouais. Donc ils ont dansé, ils ont fusionné des verres, mais bon, voilà. Alors, prenez le temps de regarder ces choses étranges. Je suis, moi, très 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 étonnée de voir ça parce que j'ai vu ce jeune designer, donc Mathieu Perroulet. Il a gagné le Grand Prix de la Design Parade de la Villa Noailles avec un projet qui était un projet d'architecte en fait. Il a fait toute une série de tréteaux qu'il a développé en partenariat avec un ingénieur de Arup. Arup, c'est un gros bureau d'ingénierie à Londres, comme on a né chez nous en Belgique. Il a passé en revue tous les systèmes de stabilité des ponts. Et à partir de là, il a fait des tréteaux. Donc c'était quelque chose de très systématique, très architectural, très rigoureux. Et ici, on se trouve dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus organique. On est presque dans de l'ornement sur vase. Au niveau de la forme, on est dans des choses assez simples. On a plusieurs techniques. Du verre soufflé. Les galettes en dessous, ça, c'est du verre qui est moulé et qui est coulé à la louche. Et puis là-dessus, il est venu appliquer une peinture à l'émail, comme ça se fait souvent, mais donc qui est appliquée après coup. Et après, on recuit à 700 degrés, on recuit les pièces. Mais donc là, il est plus dans l'idée de, et on le voit à travers ses carnets de dessin, on est plus dans l'idée d'apporter un décor à quelque chose plutôt que de travailler sur la forme, alors que lui, son travail, son diplôme de fin d'année et le travail avec lequel il avait remporté le prix de la Villa Noailles, il était dans tout à fait autre chose. Donc là, je suis un peu, je vous avoue, perdue en voyant le grand écart entre cet aspect ultra technique, ultra architectural et ceci qui est plus, on va dire, beaucoup plus organique. Mais bon, voilà. Et alors, ces différentes formes, en fait, elles sont collées à froid avec du silicone. Voilà. On peut coller à chaud, on peut souder, comme on a vu pour Caroline Nibling, et ici, c'est collé avec du silicone.
Comme les aquariums.
Le verre en question. Au site Grand Tournu, jusqu'au 26 mai.
Alors, les quatre vases ici de Samirio partent du principe du double vase. Donc, on a le premier vase, qui est un verre soufflé, encore une fois, avec un autre vase qui vient se mettre à l'intérieur. Et les deux sont calés l'un à l'autre par un joint torique. Donc, c'est une espèce de bouée, comme ça, qui rend le joint ici étanche entre les deux. Et à ça est venu s'ajouter le plateau, qui vient fixer ici avec du bois et de la corde. Et ça, c'est un travail qu'il a réalisé à Sèvres. Donc, dans le partenariat avec la Villa Noailles, un lauréat gagne une résidence au Sirva et un autre gagne une résidence à la manufacture de Sèvres. Et ici, il a remporté les deux, donc il a fait un objet qui combine céramique et verre. Avec aussi, évidemment, un travail sur la couleur. Un objet assez étrange de Jean-Baptiste Fastré. Pas beaucoup de complexité dans la façon de produire le verre. C'est une technique de soufflage tout à fait traditionnelle. Par contre, il a assemblé ces différents éléments soufflés avec des petites attaches. Donc, il y a un colson en plastique, il y a des petites attaches, des petites vis là en plastique. Et ça, ce sont des choses qu'on trouve dans le commerce chez Brico. Et donc, c'était l'idée d'associer quelque chose de fait main de façon très soigneuse et précise, avec du matériel du tout venant d'un magasin de bricolage, donc du matériel un peu plus léger. Et voilà, et cet assemblage forme un vase dans lequel on peut mettre différentes compositions florales.
La Villa Noailles, Anne van Lathom, car nous parlons dans votre bureau, Muse Vert, la Sarpoterie, et la Villa Noailles, d'après mes informations, se situe de l'autre côté de la France.
Complètement à l'opposé, nous on est au nord, à la frontière belge. La Villa Noailles, c'est à Hyères, dans le sud, près de la Méditerranée. Alors la Villa Noailles est un lieu, un très beau lieu, surtout dédié aux événements en lien avec le design.
Voilà, ça c'était pour la Villa Noailles. Et après, on va aller voir les pièces un peu plus anciennes.
Et donc là, si vous parlez de la Villa Noailles, c'est en lien avec le Sirva.
Est construit d'ailleurs par Malet Stevens.
Par Malet Stevens, oui, c'est une architecturalement déjà, ça vaut la peine de visiter la Villa Noailles rien qu'architecturalement. Et puis après, il y a les contenus, les expositions.
Pour un couple de oui. collectionneurs oui. d'esthètes, mm-hmm. dont la femme était belge.
Voilà, alors ça c'est le travail de David Dubois. Alors David Dubois, c'est un designer qui aime bien travailler à l'échelle de l'architecture. Il fait beaucoup de scénographie, c'est quelqu'un qui travaille plutôt sur les environnements plutôt que sur l'objet fini. Au Sirva, il n'est pas allé très très loin dans les techniques non plus. C'est un simple soufflage à main levée qu'on vient réchauffer après. Vous voyez qu'il y a des irrégularités. En fait, ça c'est fait avec un chalumeau après, donc on déforme un petit peu la boule de verre. Ça permet d'essayer plusieurs techniques aussi. Vous voyez qu'on a un verre transparent, un verre qui est un petit peu gris.
Et qui aimait les fleurs, dont les vases.
Alors le CIRVA, ça veut dire Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques. Donc c'est un lieu qui a été créé au milieu des années 80.
Anne van Lathom.
D'abord à Aix-en-Provence, qui a déménagé à Marseille ensuite, qui est toujours basé à Marseille. Et ce sont des ateliers donc avec une équipe en permanence de souffleurs de verre, de techniciens du verre, qui sont au service d'artistes plasticien. C'est un peu difficile hein, de mettre les gens dans des cases, j'aime pas trop ça, mais c'est pour tenter d'être explicite. Donc ce sont des artistes, ce qu'on appelle des artistes plasticiens, qui ont des projets et qui vont être réalisés en verre par l'équipe du CIRVA.
Donc ce sont des tables basses où vous voyez qu'entre le pied assez massif et la tablette, il y a une espèce de déhanchement. Techniquement, ça a été très compliqué à mettre au point parce que c'est soufflé d'une seule pièce et que faire une pièce, couler d'une pièce cette pièce où il y a cette espèce de déhanchement, c'est assez compliqué. Donc c'est soufflé dans un moule en métal. Et ce qui était compliqué, c'est d'avoir une répartition homogène à tous les niveaux, et notamment au niveau du joint qui est un petit peu complexe ici.
Et donc aujourd'hui, il y a une très belle exposition au Grand Ornu qui présente le travail de plusieurs artistes qui ont travaillé avec le CIRVA.
C'était énormément de recherches. On s'en rend pas compte parce que la forme a l'air assez... on va dire moins sophistiqué que d'autres formes qu'on a vues là, mais visiblement c'était techniquement difficile. Et alors plus étrange aussi, c'est ceci. Ça existe, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans des magazines, dans d'autres versions avec un verre un petit peu plus transparent. Je propose que vous regardiez le grand qui est là. Voilà, on dirait pas que c'est du verre.
Oui, on dirait de la cire, on dirait de la bougie.
Voilà, il y a ce rendu un petit peu cireux, c'est de la pâte de verre. Et la pâte de verre donne cet aspect cireux. Hein. Pensez au verre de dôme, galet, etc. Il y a un peu un aspect cireux. Mais donc, ça vous rappelle un autre matériau, ce que vous voyez là.
La frigolite.
La frigolite, voilà. Ça, en français, ils ne comprennent pas. Oui, le polystyrène. Voilà. Donc, la frigolite.
C'est une collaboration. Il y a le nom du créateur et le nom du CIRVA qui est lié. Chez nous, à Sarpoterie, on est à l'opposé nord-sud, mais aussi un peu à l'opposé au niveau du contenu. C'est-à-dire, on a le verre. Au dénominateur commun, on a le verre. Mais ici, à Sarpoterie, le verre est réalisé par les artistes eux-mêmes. Donc, ils touchent à la matière. Et ils continuent la création tout en touchant, tout en soufflant. Ils donnent forme, la forme va évoluer, va changer. Ils ne viennent pas avec un projet écrit et en demandant la... Bon, même au CIRVA, ça prend du temps. Hein. Ce n'est pas des choses qui se font en une semaine. C'est sous plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Ici, on a des résidences d'artistes également. Les artistes viennent, sont choisis sur un projet artistique, mais viennent réaliser eux-mêmes. Ils ont tout le matériel à disposition, toutes les techniques à disposition. Ils travaillent eux-mêmes, ils réalisent eux-mêmes.
Le verre en question.
Ce sont deux cubes, déjà, ce sont deux cubes imbriqués les uns dans les autres. C'est pas du tout figuratif, il ne joue pas avec les couleurs, mais il joue avec la perception. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité avoir cette œuvre aussi dans l'exposition Le verre en mouvement, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le cube. Alors je vous invite à rentrer. Donc on rentre dans le cube, parce que déjà on entend, bon, il y a déjà une perception sonore qui est un peu différente, et là on se rend compte que finalement les parois vitrées, là j'ai une paroi sur ma gauche, on voit bien à travers, on voit l'entrée du musée, et pareil quand on rentre dans le musée, on voit par transparence, par contre sur ma droite j'ai une autre paroi vitrée, on ne voit pas à travers, mais on voit le reflet. Donc on voit l'exposition, une partie de l'exposition qui est derrière moi, je la vois devant moi. Et on se voit soi-même, et donc c'est toute une expérience perceptive. Donc le mouvement, là encore, c'est le visiteur qui est en action, qui est en mouvement, et qui, à force de bouger, qui est rentré dans le cube, va percevoir différemment, va voir à travers, ne plus va voir le reflet, ou va voir par transparence.
Au Mulsvert, à Sarpoterie, dans la Vénois, le verre en mouvement jusqu'au 8 septembre.
Alors là, c'est une artiste chinoise qui a réalisé des œuvres en verre, mais c'est le côté sonore qui est très important, c'est-à-dire que c'est une installation avec 5 modules, avec des objets en verre qui sont installés sur un socle métallique, et il y a à chaque fois un petit marteau en métal qui vient frapper contre les tiges de verre et qui crée donc cette sonorité avec un rythme qui évolue plus ou moins. Et donc là, c'est toute la perception sonore. L'exposition Le verre en mouvement qui regroupe 15 artistes différents qui s'expriment différemment, qui sont de nationalités différentes, qui abordent le verre différemment parce qu'on est quand même au Mulsvert, donc ce sont toutes des œuvres en verre ou en lien avec le verre. On peut les regrouper en 3 grandes familles. D'un côté, on a la perception du mouvement, on a le geste de l'artiste et puis on a aussi le mouvement de l'œuvre, le mouvement figé en quelque sorte.
Avec Anne Van Lathom, Pascal de Grel et René Guifray.
Ce sont des ateliers qui sont ouverts donc à des personnes dites en situation de fragilité, qu'on appelle des personnes fragilisées, hein, qui proviennent d'univers complètement différents, en situation d'illettrisme, en situation de détresse côté santé, touchées par des problèmes d'addiction, par exemple. Donc on essaie de réunir des publics tout à fait différents autour de ces ateliers pour les accompagner et les restimuler et trouver, je vais dire, quelque part, un objectif de vie qui soit, je vais dire, beaucoup plus florissant que ce qu'ils connaissent dans la vie quotidienne. Alors c'est les sortir de l'isolement, c'est également les accompagner par rapport à une thérapie hein, qu'ils peuvent suivre. Et puis surtout, c'est un grand lieu d'échange, c'est une grande relation humaine hein, finalement qui est mise en place. Hein. À la fois, je veux dire, dans l'échange entre eux, et puis également l'échange qui existe avec les artistes qui les accompagnent et qui leur font découvrir finalement l'utilisation de techniques, je pense notamment aux mathématiques, hein, dont on a besoin pour créer par exemple une œuvre sur la base de l'utilisation du verre.
Anne Van Lathom, à l'inauguration de cette exposition qui s'intitule
Le verre en mouvement.
Je rencontre un certain...
C'est un groupe donc du Mulsvert hein, qui les accompagne, surtout les artistes hein, qui vont mettre en place le dispositif je veux dire, de création artistique et qui donnera je veux dire, au final lieu à la présentation des œuvres qui sont faites par les différentes personnes. Et cette restitution donc, donne lieu donc, à une exposition qui est présentée au grand public et... qui a un retentissement, je veux dire, extraordinaire auprès des publics fragilisés. Ils attendent avec impatience qu'on présente leurs œuvres et puis que chacun découvre leur création.
Parce que nous travaillons de plus en plus avec du mécénat, grâce au mécénat. Et donc, M. De Grel représentait à l'inauguration, et très souvent, la Caisse d'épargne.
Alors, je parle en tant que mécène. C'est-à-dire que, comme je disais, on a deux formes d'accompagnement auprès du Mulsvert. La première forme d'accompagnement, c'est d'être mécène privilégié sur toutes les expositions temporaires. Et puis, dans un esprit d'ouverture de la culture à tous, hein, à l'ensemble de la population, ce ne sont pas forcément des initiés hein, qui sont, je veux dire, attendus pour visiter le musée. Donc l'idée est un peu comme le fait également le département, d'ouvrir concrètement, je veux dire, le musée à l'ensemble des publics. Pas forcément des gens qui sont, je veux dire, des connaisseurs en matière d'art. Et puis, dans une forme de synergie, donc, il y a ces ateliers thérapeutiques qui sont initiés, justement, dans l'esprit de l'ouverture de la culture à tous. Monsieur De Grel, Pascal.
Alors si on commence avec l'œuvre visible dès qu'on rentre et qui est très intéressante de voir de loin, puis il faut s'approcher, c'est une œuvre double de Josefa Geschmuch, artiste allemande, peintre à l'origine. Et ce sont deux cubes, l'un blanc, l'autre noir, avec de loin on a l'impression qu'il y a un aspect qui semble très doux, très duveteux, comme de la ouate presque. Et puis quand on approche, on se rend compte que non, c'est du verre, évidemment. Et ce sont tous des petits fragments d'un verre très 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 fin que l'artiste casse volontairement pour venir coller sur un cube, coller sur une toile en quelque sorte. Et donc là, c'est l'inclinaison de tous ces petits fragments de verre qui joue et qui crée le mouvement. Une autre œuvre qui évoque énormément le mouvement, une œuvre majeure dans l'exposition puisqu'on est accueilli, et puis surtout quand on est accueilli, il y a le dialogue qui se forme entre l'œuvre de Jean-Michel Autoniel et l'extérieur. Parce que l'œuvre de Jean-Michel Autoniel, le nœud, un de ces fameux nœuds, donc évidemment il y a le mouvement dans l'œuvre. L'œuvre est constituée de grosses perles de verre, de boules de verre. Ça ressemble à des boules de Noël, ça ressemble à des grosses perles, on peut le dire comme on veut, mais qui sont miroitées à l'intérieur. Et donc il y a l'évolution de la couleur, ça part du gris miroir, qui devient de plus en plus clair, blanc, un vert jaune très léger, qui devient vert beaucoup plus foncé. Et puis voilà, le nœud continue et ça redevient plus léger, ça redevient blanc et c'est reparti pour un tour. J'essaye de l'exprimer en mots sans avoir l'image, mais il y a aussi l'image quand on est devant l'œuvre, c'est-à-dire que comme les boules sont miroitées à l'intérieur, en s'approchant, on voit toute l'exposition reflétée dans chaque boule, pas dans une boule, mais dans chaque boule, et on se voit soi-même tant de fois son portrait qu'il y a de boules dans l'œuvre.
Alors
on a Keiko Mukaide, une artiste d'origine japonaise, par rapport à Walter Boulanger, qui est un artiste belge. Les deux artistes s'expriment à travers la forme d'un cercle. Donc le cercle, c'est le mouvement. Chez Keiko Mukaide, on voit trois cercles, c'est le titre de l'œuvre aussi, trois cercles de la même famille. Et donc ce sont tous des petits morceaux de verre insérés dans une toile. Ce n'est pas du simple verre à vide, c'est du verre dichroïque. Alors ce verre dichroïque, c'est un verre spécial qui, avec la lumière, change de couleur. D'un côté, on aura un reflet jaune et de l'autre côté, il sera bleu. Mais on peut avoir du rouge, on peut avoir du vert, on peut avoir donc plusieurs couleurs. Et c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui crée tout le mouvement dans l'œuvre aussi. C'est-à-dire qu'on voit le vert, mais finalement on voit plus l'ombre colorée sur le panneau blanc. Et le parallèle avec Walter Boulanger, c'est son œuvre à lui, c'est pareil, c'est un grand cercle, mais alors là c'est un grand cercle en vert. C'est-à-dire qu'il a découpé un rond dans un verre plat. Il a sablé ce grand rond, sauf il a réservé dans le sablage tout des ronds. Et le mouvement dans cette œuvre-ci, et donc tout l'intérêt du verre, c'est que ce panneau n'est pas collé contre le mur, mais à quelques centimètres du mur, bon, accroché à quelques centimètres. Donc avec la lumière, on a déjà tout le mouvement, c'est-à-dire que tous ces cercles, on voit l'ombre sur le mur à plusieurs niveaux, donc ça crée déjà un mouvement. Et en plus, là, on retrouve le parallèle avec Keiko Mukaide. Il y a certains cercles qui sont soulignés par des petits ronds en vert dichroïque qui ont été remplir les petits cercles. Ils sont collés au centre du cercle. Donc là, on a aussi ce jeu de lumière, c'est-à-dire on bouge et on voit évoluer la couleur en fonction de notre mouvement à nous et en fonction de la lumière, bien entendu.
René Guiffret.
Ah, c'est un nom assez connu quand même, Albers. Ah, si on parle du carré. Non, c'était une petite plaisanterie de ma part parce que je l'ai écrit. Mon oncle s'appelait Albert. Et donc ça m'a amusé cette confusion entre Albert, qui m'a pratiquement élevé, et Albers, le grand Albers. Et j'ai pensé que c'était vraiment mon oncle qui était devenu Albers, quoi. René Guiffret.
Et que voit-on ici au Musevert de vous, cette pièce ?
On voit justement cette pièce qui s'appelle « Les fenêtres de l'oncle Albers ». Parce que Albers est quelqu'un dont on peut dire qu'il a peint des fenêtres, quoi. C'est son histoire du carré, c'est une histoire de fenêtres. C'est la fenêtre colorée.
On va retourner dans le monde de l'art contemporain. Parce que là, on se retrouve face à une œuvre de Tony Cragg. Alors Tony Cragg, pareil, très grand nom, très connu internationalement, grand sculpteur, qui est basé en Allemagne aujourd'hui. Et là, c'est une œuvre en verre. Évidemment, il n'est pas réputé ou reconnu tant que ça pour ses œuvres en verre, mais cette œuvre en verre résulte d'une collaboration avec l'atelier Berengo, qui est situé à Murano. Et Berengo travaille avec beaucoup d'artistes comme Tony Cragg et comme d'autres grands noms du monde de l'art contemporain. Donc on trouvait que c'était intéressant de pouvoir mélanger ces deux mondes. On a parlé de Jean-Michel Autoniel, on a parlé de René Guiffret, qui ne sont pas des verriers à proprement parler, mais qui utilisent le verre dans leur travail. Donc ici, l'œuvre qui n'a pas de titre particulier, on a l'impression que ce sont des gros glaçons, en quelque sorte, qui sont très gros glaçons, hein, qui sont superposés, qui sont accrochés les uns aux autres. Mais si on regarde de plus près, et ça c'est très typique chez Tony Cragg aussi, ils ont une telle courbure, on va dire, qu'on a l'impression que ce sont presque des personnages, que ça devient c'est tout à fait abstrait et ça devient presque figuratif. On a l'impression qu'il y a deux personnages qui sont penchés les uns vers les autres et qu'il y a une sorte de conversation qui s'installe.
Si j'ai travaillé avec le vert, c'est pour remplacer les couleurs de la palette par le vert. C'est-à-dire le vert, lui, propose de multiples fonctions colorées totalement différentes et qui sont inhérentes au vert, c'est-à-dire que c'est lui qui produit la couleur, c'est pas moi. C'est pour ça que ça me permet de rester sur une palette monochrome blanche.
Et on voit à côté les trois œuvres de Julius Weiland, qui est un artiste allemand, et par contre un artiste du vert. Et là, on se dit, mais oui, pourquoi l'un est aussi connu et pas l'autre hein? C'est ce que moi j'ai envie de dire. Et là, Julius Weiland, lui, il travaille avec des tubes. Donc ces œuvres-là, ce sont des tubes en verre de l'industrie du verre. Hein? C'est pas lui qui les a soufflés, ça vient de l'industrie du verre. Il les coupe, il les assemble. Ça passe au four. Donc il n'y a pas de colle, ça passe au four et bon déjà les tubes vont coller l'un à l'autre parce que bon le verre qui ramollit va finir par coller ensemble. Et puis à une certaine température, ces tubes vont se ramollir et commencer à épouser des formes. Et l'artiste, évidemment, il doit décider, c'est lui, c'est son œil artistique qui décide à quel moment il va arrêter le four, arrêter la température, la chaleur, pour que le verre se fige et reste dans la forme qu'il souhaite. Avec la part évidemment spontanée, mais c'est lui qui décide à quel moment. Et puis après, il peut y avoir le travail à froid de sablage ou d'encre. Il peut encore continuer à y apporter quelque chose, mais la forme sculpturale est née de cette manière-là. Et évidemment, le mouvement est à double titre. C'est cette évolution que je viens d'expliquer, mais le mouvement, c'est aussi l'œuvre qui exprime un certain mouvement. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on voit bouger quelque chose, qu'on voit le verre, il y a des effets d'optique, il y a tout ça. Et donc là, on arrive à René Guiffret.
Mon rapport au verre est toujours à travers le verre industriel. Je n'ai aucune sensibilité au verre artistique, soufflé, luxueux ou autre. Non, j'aime ce matériau brut qui est apparemment insensible. Ça me permet de doter le sensible que moi, en tant qu'artiste, je pourrais amener. Si vous voulez, les peintres mettent toujours en cette histoire de la touche, par exemple. Moi, ce sont des valeurs qui ne m'intéressent pas. Je préfère que le matériau reste brut et apparemment, oui, je l'ai dit, insensible, mais apparemment.
À l'occasion de ce vernissage, je rencontre René...
René Guiffret.
Qui est peintre à l'origine,
oui.
Me dit-il.
Oui.
Qui travaille la céramique.
Oui.
Et puis...
Le verre.
la transparence.
Voilà, oui, c'est plus juste de dire comme ça. Alors, avant de parler plus en détail de René Guiffret, cet exemple-là explique aussi le titre de l'exposition, Le verre en mouvement. Dans le temps, on parlait de Studio Glass Movement, le terme anglais, donc où il y a bien le mot mouvement dedans. Donc le mouvement artistique, on va dire. Donc où les artistes sont sortis de l'industrie verrière, ont commencé à créer leurs propres ateliers et à travailler en toute liberté, artistiquement, comme bon leur semblait, tout en travaillant le verre. Donc c'était principalement du verre soufflé, mais pas que. Donc en découvrant une liberté créative autour du matériau vert. Aujourd'hui, même si les artistes travaillent encore dans ce principe-là, ont leurs ateliers et tout ça, mais le monde a beaucoup changé. Le monde du verre a beaucoup changé. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'appeler l'exposition « Le verre en mouvement », pour montrer cette évolution aussi, ce mouvement du verre, mais cette évolution dans le mouvement du verre. C'est-à-dire que maintenant, il y a des artistes qui, soit occasionnellement, soit toujours, utilisent le verre. Et soit le réalisent eux-mêmes, soit font appel à des techniciens, se sont entourés ou font appel à des ateliers et tout ça, pour réaliser... finaliser l'œuvre qu'il souhaite avoir. Mais donc tout tourne autour du verre. Ce n'est pas, je reviens à tout à l'heure, ce n'est pas comme le Sirva, ce n'est pas de l'édition, ce n'est pas du design et de l'édition, donc ça reste pièce unique, mais en verre, fait soi-même, fait avec d'autres. Donc il y a toute une évolution.
Dans le mouvement que ce verre peut produire, dans les multiples interactions, l'interaction qu'il peut avoir par rapport au regardeur, selon que le regardeur se déplace, selon la lumière qu'il reçoit, qu'il renvoie, selon que le regardeur se voit dans ce verre et altère la couleur qu'il regarde, enfin, de multiples fonctions, comme ça.
Anne Van Lathom.
C'est un peintre, bon, il s'intéresse, c'est un artiste tout court, mais qui en est arrivé à force de sa peinture, à force d'épurer au maximum son travail, il en est arrivé à la transparence.
En fait, je viens de la peinture. Et jusqu'au moment où la peinture, où j'ai abandonné le chromatisme de la peinture, c'est-à-dire je me trouvais avec d'abord les gris et puis finalement l'abdiquer avec le blanc.
Le blanc et la transparence, donc il n'y a plus... Mais il en est arrivé à une certaine matière, c'est-à-dire qu'il a découvert le verre. Alors là, ce n'est pas le verre qui commence à souffler ou qui a besoin de beaucoup de techniques. Non, c'est du verre, ce qu'on appelle du verre plat, hein, des feuilles de verre, qu'il découpe, qu'il assemble. Et ben ça, c'est le miracle du verre. Ça crée tout un effet de profondeur, hein, des effets d'optique.
Et là, j'ai commencé à travailler sur différents matériaux. Je suis allé, dans un premier temps, travailler avec les carreaux de céramique blanc, type carrelage de salle de bain, que je fragmentais et que j'utilisais fragmenté et que j'assemblais dans de grands formats. Et je me suis rendu compte que si l'on regardait une surface carrelée d'une façon oblique, c'est-à-dire en se mettant presque parallèle à la surface, il y avait un phénomène de réflexion qui se produisait, qui était un phénomène de miroir, c'est-à-dire que cette surface reflétait la pièce dans laquelle cette pièce était posée. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi rester sur la céramique et ne pas rentrer directement, aller directement avec le verre? C'est de cette façon que donc je suis passé au verre et que le verre m'a amené à aller encore un peu plus loin en ce moment, c'est d'y inclure le miroir carrément, qui lui est sans ambiguïté aucune. Et lui aussi, d'une insensibilité apparente, évidente. Voilà.
Dans le mouvement figé, on peut aussi parler de Maria Koshenkova. Le titre de l'œuvre parle déjà pour lui-même, c'est-à-dire Liquid Wood, le bois liquide. Elle est partie d'une planche en bois, on voit les traces dans l'œuvre, sur lesquelles elle est venue couler du verre chaud, qui évidemment, bon, c'est raconté de la manière dont on lit l'œuvre. Je ne vous parle pas de la technique, là, je vous parle vraiment de la manière dont on lit l'œuvre. Donc on voit ce petit bout de planche en bois, et on voit ce verre liquide qu'elle a coulé dessus et qui est figé, là aussi. Et bien on voit, on l'a spécialement présenté sur un cube, sur un angle, parce qu'on voit des dégoulinures, on voit cette transparence, cette masse visqueuse. Évidemment, après, bon, l'artiste, c'est une artiste malgré tout. Donc elle a embelli cette œuvre avec des effets argentés, tout ça. Ce sont des choses qui viennent en plus et à froid.
le verre en question.
Autre mouvement figé, c'est Maria Bang-Espersen, artiste danoise. C'est une œuvre de nos collections permanentes. On a trois œuvres d'elle. Alors, je ne sais pas s'il faut encore le préciser, mais quand on voit l'œuvre, ça fait tout de suite penser à une usine de caramel, au sucre. Dans une usine de caramel, on travaille le sucre chaud, qui est accroché souvent à un crochet, et puis les gens, ils tirent, ils plient, ils raccrochent le caramel, ils retirent, ils replient, et à force d'eux, ça crée un côté très filandreux, enfin, très beau, très brillant également. Mais Maria Bang-Espersen, elle a fait exactement la même chose, mais avec du verre chaud. C'est-à-dire, le verre chaud, on dit toujours le verre chaud, c'est un peu comme du caramel. Plus il refroidit, plus il durcit, plus il est chaud, plus il est mou. Mais à une certaine température, bon après il faut gérer, à une certaine température, elle est parvenue à faire la même chose. Donc elle est parvenue à créer toute une forme qui exprime cette souplesse, ce mouvement, mais qui est figée et qui est posée sur un coussin en béton. Donc là il y a le contraste des matériaux.
Le verre en question. Au site Grand Ornu, jusqu'au 26 mai, design orienté vert, la collection du Cirva, avec Marie Poc et les voix de Maurice Culot et Jérôme Pechtat.
Puisqu'on parle du geste de l'artiste, on tourne la tête et on voit les deux kakémonos de Jean-Pierre Omnenstock. Jean-Pierre Omnenstock, grande figure très liée à sa poterie, qui nous a malheureusement quittés il y a quand même déjà quelques années, mais qui était venu en résidence à sa poterie. Et ces deux œuvres, il les a réalisées pendant sa résidence. Donc ce sont deux grands kakémonos, on va dire, mais c'était un mélange de papier et d'argile, donc c'est assez fragile, qu'il mettait par terre. C'était imbibé d'eau. Il cueillait du verre. On dit cueillir du verre, on va chercher un peu de verre chaud, du verre en fusion au bout de la canne. Et puis il le tenait au-dessus de ses kakémonos. C'est-à-dire que quand on ne tourne pas, je viens de le dire à l'instant, le verre c'est comme du caramel, quand il est très chaud, il est mou. Donc il tenait sa canne au-dessus de ses kakémonos, la paraison de verre qu'il avait au bout de la canne commence à couler. Un fin filet de verre qui coule et qui vient s'écraser sur ses kakémonos. Donc il vient brûler la matière. Et donc, il crée tout un motif spontané au-dessus de ses kakémonos, à la verticale. À un moment, il décide d'arrêter, et puis il enlève le verre, et il remet de l'eau dessus pour éviter que ça brûle. Donc, c'est les deux œuvres qu'on expose ici. Vous ne voyez pas de verre, mais c'est l'écriture de verre. Donc, c'est le mouvement, le geste de l'artiste, traduit grâce au verre. Il a écrit avec du verre.
Au Mulsvert, à Sarpoterie, dans la Vénois, le verre en mouvement... jusqu'au 8 septembre, avec Anne Van Latom, Pascal de Grelle et René Guiffret.
L'expression très naturelle du mouvement, Alena Mateška, artiste tchèque, qui a créé le Magic Carpet, donc un peu c'est le tapis volant. On part donc dans le monde de l'enfance en quelque sorte, donc on part vers l'extérieur, c'est présenté devant la fenêtre parce qu'on a l'impression que ce tapis pourrait prendre son envol à travers la fenêtre et partir dans la campagne avenoise un peu plus loin. Ceci étant dit, il donne l'impression de légèreté et de mouvement, mais c'est une œuvre qui pèse quand même plus de 300 kilos. Donc elle aura du mal à s'envoler. C'est une œuvre réalisée en pâte de verre, donc qui est très impressionnante. Ça fait plus d'1,80 m de long, mais il y a le côté ondulé.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Junicot.
L'exposition est complétée aussi par trois vidéos, des vidéos d'artistes. L'une, c'est une vidéo qui montre le travail de l'artiste de Jean-Pierre Omnenstock que je viens de vous expliquer. Puis deux autres vidéos, mais qui sont des œuvres, qui sont considérées comme œuvres. L'une de Maria Bang-Espersen, c'est une performance avec une bulle qui est soufflée. Tout est filmé au ralenti et donc on souffle beaucoup d'air dans une bulle de verre. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle finit par exploser. Donc c'est le verre en mouvement qui devient très très grand, qui explose, et puis tous les petits morceaux de verre qui retombent tout en douceur. L'autre vidéo, c'est Maria Koshenkova, artiste russe, qui, elle, a créé une installation en verre, et puis il y a toute une installation sonore de captation au-dessus de l'œuvre, et quand les visiteurs approchent, bougent leurs mains sans toucher l'œuvre, il y a toute une musique qui se crée en même temps. Donc ce sont des performances, et le meilleur moyen de ces performances, c'est de les montrer par vidéo. Tout en restant avec Maria Koshenkova, donc artiste russe, qui vit au Danemark, mais bon, peu importe les nationalités. Et l'œuvre qui est présentée dans ce verre en mouvement, c'est une œuvre à partir de cordes. Mais la corde n'est pas une petite ficelle, la grosse, grosse corde. Elle a fait un séjour, il y a quelques années, au Japon. Donc elle a été très influencée aussi par l'art du bondage japonais. C'est en effet son expression à elle. Donc en créant des nœuds très forts, en créant tout un mouvement à travers ses cordes, mais en le figeant dans le verre. Parce qu'on ne voit plus la corde, on ne voit que le verre. Et c'est une installation donc avec une partie de corde suspendue au mur, avec une autre corde enroulée autour. Et puis on a l'impression, le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la corde qui a lâché et qui s'est enroulée sur elle-même et qui est présentée au sol.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.